6h04, vendredi 12 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Ce vendredi sera marqué par une alternance de soleil et de nuages, 40% de probabilité d'averse ce matin, avec un maximum autour de 11 degrés. Il y aura donc des moments de soleil aussi, mais un peu plus rarissime, températures qui ne bougeront pas vraiment. On a déjà 10, donc on aura 11 comme maximum. En soirée, partiellement nuageux, avec un minimum de 6 pour la nuit. Samedi, demain, donc, ça commence par des nuages. Encore là, faible risque d'averse le matin. Il y aura aussi des périodes un peu plus ensoleillées, vent modéré, température stable, 11 degrés. Et pour dimanche, on prévoit soleil et nuages en alternance avec un maximum de 12 degrés. Alors vraiment, température qui ne bouge pas, 10, 11, 12 degrés tout au cours de la fin de semaine. Bon, d'abord, on a appris que c'est maintenant réglé. On a une nouvelle secrétaire générale de la francophonie qui a été élue. C'est sans surprise que la candidate du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a été donc élue, 57 ans. On sait que Michaël Jean s'est accroché, mais c'est par une très, très forte vague qu'elle l'a emporté. Alors, c'est sûr que c'est controversé. Et pour reprendre l'expression du président français Emmanuel Macron, l'idée, c'est d'élire une personne et non pas un pays, parce que le Rwanda n'est pas un pays reconnu pour sa défense des droits et libertés. Il y a de la répression, les dissidents sont muselés, et comme beaucoup de Rwandais disent, des gens qui sont au Canada, on a le droit de le dire au Canada, mais si on répétait la même chose dans notre pays, on serait emprisonné. On sait également qu'elle parle français, bien sûr, mais qu'elle s'exprime plutôt en anglais et que c'est son choix. Et elle parle d'une francophonie qui est ouverte sur les autres langues, incluant l'anglais. Alors, voilà pour cette décision qui vient tout juste de tomber, son élection. Autre dossier ce matin. D'abord, il y a l'histoire dont Monique nous a parlé, là. Et comme je vous dis, c'est fragmentaire comme information. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les deux gars qui ont été arrêtés sont des gens connus pour des histoires de stupéfiants et de prostitution. On se retrouve avec trois meurtres, celui d'une jeune femme, deux autres corps qui n'ont pas été identifiés, et une autre jeune femme qui a survécu à une tentative de meurtre. Elle s'est lancée en bas d'un véhicule, elle a réussi à échapper aux deux individus, et on a tenté de l'abattre en lui tirant dessus. Alors, pourquoi toute cette violence? Qu'est-ce qui est arrivé? Quels sont les liens entre les deux individus et les quatre personnes? On présume qu'il s'agit de quatre jeunes filles, mais en tout cas, il y en a au moins deux. Pour l'instant, on n'a pas pu identifier les deux autres corps, mais c'est une affaire très, très mystérieuse. Au moins, les deux ont été appréhendés à Repentigny et à Montréal. Ensuite de ça, si on fait juste un survol des peut-être décisions qui ont été rendues dans le domaine de la justice, à Rouyn-Noranda, pour la première fois, il y a un gars qui a été condamné à une peine de prison pour avoir texté au volant, ce qui a amené un accident, 26 juillet 2015. Le gars s'appelle Guillaume Crépeau. Il est sur la route 117 près de Rouyn-Noranda. Sa fillette se trouvait sur la banquette arrière et il a envoyé un message texte à sa sœur. Vous imaginez, il conduit, il texte, il y a un bébé dans l'auto. Et pendant qu'il était en train de texter, sa voiture a dévié pour aller percuter une moto qui venait en sens inverse. La motocycliste a été gravement blessée. Elle a eu plusieurs opérations et finalement, on a dû lui amputer la jambe quelques mois après la collision. Le juge a dit bien sûr que la vie de la victime était complètement chamboulée par un texto qui ne pouvait pas attendre et on l'a condamné à 12 mois de prison ferme, ce qui est une excellente nouvelle. Habituellement, on avait des sentences plutôt réduites. Alors, il a été reconnu coupable en juin, donc de négligence criminelle ayant causé des lésions. Et le juge a souligné trois fois plutôt qu'une l'insouciance des gens qui textent au volant et considère, et c'est pour ça que la peine est exemplaire, qu'il faut donner une sentence dissuasive. Et il a également pris en compte que Crépeau n'avait pas de passé criminel. Mais j'espère, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'espère que c'est un message qu'il faut partager. Et vous le savez, si vous roulez, je pense à beaucoup de camionneurs qui m'écrivent pour me le dire, eux qui ont une vue en plongée, là, quand dans les bouchons de circulation, puis même des fois, des gens roulent puis tes voix textées, ça m'arrive, là, t'es sur une autoroute, tu te fais dépasser par quelqu'un, puis tu le vois qui tient son téléphone entre les mains, puis qui est en train de texter, puis qui regarde le volant, puis qui regarde en même temps le ce qui se passe devant lui. Autre cas, une fillette de 10 ans qui a été agressée par un gars de 60 ans, un gars comparu au palais de justice de Québec, et ils ont entretenu une relation, comme une relation de couple. Ça se peut pas. Ça a commencé quand la petite fille avait 9 ans, et le monsieur recevait l'enfant dans sa maison, son appartement, puis il l'aidait pour ses devoirs, puis il faisait des repas, puis etc., etc. Et là, on a même documenté les rapports sexuels. La sœur a pris des photos. Tu sais, il n'y a pas de doute, là. On n'est pas dans une question d'interprétation. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est que la mère était au courant. Et à chaque fois que ça arrive, je me pose toujours la question, mais là, OK, on accuse le pédo, là, mais maman, elle, y arrive quoi? Même le juge, Mario Tremblay, a posé la question à la couronne en disant « Qu'est-ce qui arrive avec la mère? » Et tout ce qu'on a pu répondre, c'est qu'il y avait une enquête policière qui était en cours à son sujet. Alors, ça a commencé par des petits contacts sexuels, puis après ça, c'est allé beaucoup plus loin. Et elle avait 9 ans quand ça a commencé. Passons à autre chose, parlons du cannabis. Bon, il y a toutes sortes de nouvelles qui, évidemment, puis ça va se multiplier à l'approche de la date de la légalisation, qui est mercredi prochain. D'abord, on a appris au 98.5 que là, il y a des travaux qui sont peut-être stoppés parce que le nouveau gouvernement veut modifier le cadre légal et, par exemple, avoir des changements sur les succursales, la localisation des succursales pour qu'on soit plus loin, par exemple, d'écoles et que, bref, un environnement plus neutre. Alors, c'est sûr que si on change la loi, on change les critères, les paramètres, bien là, ça devient un peu plus compliqué. Premier point. Deuxièmement, et là, je sais que je vais recevoir des courriels de bêtises, mais il y a des médecins qui disent haut et fort que, et je reprends l'exemple de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a résumé la chose en disant « Vous pourrez fumer du cannabis là où vous pouvez fumer une cigarette. » C'est le principe général pour la ville de Montréal, sans tomber dans les complications des arrondissements puis les particularités là, dans 5 ou 6 arrondissements qu'on risque de voir. C'est sans compter également des changements à la loi que pourrait faire voter le nouveau gouvernement de la coalition Avenir Québec. Puis ce matin, je vais parler avec un médecin qui s'appelle Paul Poirier et qui, lui, considère qu'il faut, au même titre que le tabac, faire des campagnes anti-cannabis. La cigarette, c'est légal, le cannabis va le devenir. Ben, selon lui, fumer du cannabis contient 3 fois plus de goudron et 5 fois plus de monoxyde de carbone qu'une cigarette standard. Je sais que vous ne serez pas d'accord, tout le monde, là. Mais c'est un discours qui mérite d'être entendu. Il est le chef du secteur de prévention et de réadaptation cardiaque à l'Université Laval. Un joint, c'est 3 à 5 cigarettes, selon lui. Les fumeurs de cannabis ont tendance à inhaler plus profondément et maintenir la fumée jusqu'à 4 fois plus longtemps dans les poumons. Il dit également que de 3 à 5 fois plus de décès de différentes causes ou de décès reliés à des problèmes de santé cardiaque quand une personne est réputée consommer beaucoup de cannabis. Alors vous allez me dire, ouais, mais l'alcool puis le tabac. Lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que parfait, on veut légaliser ça, pour supposément, puis ayons des doutes, là, sortir le crime organisé, et aussi pour assurer un produit de qualité. Mais il dit, si on permet encore la vente de cigarettes, puis que là, on veut légaliser le cannabis en disant, de toute façon, les gens vont en consommer, bien, il faut frapper sur le clou et répéter que ça demeure un produit qui est nocif pour la santé. Il me dit, oui, mais il y a du cannabis à des fins thérapeutiques, à des fins médicales. On va poser la question au Dr Poirier un peu plus tard dans l'émission. 6h13, Marc, pour cette dernière journée au boulot, ça se passe comment? Parfait, on poursuit avec notre revue de presse. On a beaucoup parlé de ce forfait jaquette ou la prime jaquette pour les médecins. Et là, le Journal de Montréal, puis on avait parlé avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, Diane Francoeur, qui nous disait que c'était pour disparaître. Là, c'était réglé, là, qu'on avait enlevé ça. Donc, la prime va être abolie le 10 décembre. C'est un montant de 66 $ versé depuis 2009, chaque fois qu'un spécialiste en médecine interne visite un patient en isolement. Les autres employés, catégorie de travailleurs, n'avaient pas la même prime. Ça coûtait donc 8 millions pour les trois dernières années. Et ce matin, le Journal de Montréal, c'est Éric Yvan-Lemay qui écrit ça, nous dit qu'on a trouvé une autre façon de redistribuer l'argent. Donc, ils vont recevoir tout simplement plus d'argent lorsqu'ils voient un patient qui a été hospitalisé. Alors, tu fais disparaître la prime, mais évidemment, l'argent reste quand même attribué. C'est juste qu'on a changé l'appellation pour ne pas créer, si vous voulez, une espèce de scandale. Également, ce matin, je vais vous parler de cette histoire qui est terrible, qui fait la manchette depuis déjà quelques jours. Et c'est évidemment la mort de ce journaliste qui est un Saoudien, Jamal Khashoggi, qu'on présume avoir été tué. Et voici quelles sont les dernières nouvelles, quels sont les derniers détails. D'abord, plusieurs sources d'informations, autant des sources turques qu'américaines, confirment qu'un groupe de 15 Saoudiens est arrivé à Istanbul le 2 octobre. On confirme également que Jamal Khashoggi s'est rendu donc au consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. On a des preuves vidéo de son arrivée. On a des images également de caméras de surveillance où on voit les 15 personnes en question à différents moments. Et ce matin, les services de renseignement disent qu'ils ont en leur possession des images vidéo, mais aussi des bandes sonores où on entend très bien plusieurs individus questionner, torturer et finalement exécuter le journaliste en question. Deuxième chose, le corps aurait été démembré et on s'en serait débarrassé. On ne sait pas comment. Ce qui semble assez clair, c'est une commande qui a été passée par le régime saoudien. Et le président Trump a déclaré hier que même si c'était le cas, il n'est pas question de revoir le contrat de vente d'équipements militaires à l'Arabie saoudite. D'autres pays n'ont pas le même discours, mais est-ce qu'on va vraiment pénaliser le régime saoudien, qui est une dictature, là? Puis là, on a un nouveau monarque qui se donne des allures un peu de jet-set, qui montre une certaine ouverture, ce qu'on lit parfois dans les magazines, en accordant certains droits aux femmes. Puis là, il a l'air d'une espèce de gars qui fait faire un virage à la famille royale, alors que dans le fond, il est aussi répressif que les autres. Puis le cas de Badawi n'est pas réglé. Puis là, vous avez un journaliste qui était en poste aux États-Unis, qui était donc en Turquie à ce moment-là, et qui a été enlevé, séquestré, torturé et finalement assassiné. En tout cas, on présume. Et là, vous avez des élus américains qui disent « Est-ce qu'on peut avoir une version complète des événements de la part d'Arabie saoudite? » Qui, vous le comprendrez, évidemment, nie toute l'affaire. Parlons un peu de politique aussi, parce que la course à la direction du Parti libéral du Québec commence tranquillement, même si officiellement, on sait que ça va être dans plusieurs mois. Mais les prétendants à la couronne se sont quand même un peu exprimés hier. Il y a Pierre Moreau qui a dit « C'est pas parce que j'ai 60 ans que je peux pas me présenter », alors que certains disent qu'il faut y aller avec un virage jeunesse. Dominique Anglade dit « On a d'autres choses à faire ». Alexandre Taillefer, qui sera avec nous tantôt, dit « Peut-être, mais faut pas que ça ait lieu avant 2020. Faut faire une espèce d'exercice de prise de conscience puis revoir les priorités, les valeurs du Parti libéral du Québec ». Sébastien Proulx, je vous le disais, leader parlementaire, lui non plus. Luc Fortin. Alors, il y a quelques personnes dont les noms reviennent depuis le début. Et hier, c'était la dernière réunion du Conseil des ministres. Entre-temps, vous avez François Legault qui est au sommet de la francophonie, qui répète, lui, qu'il veut absolument maintenir le cap pour ce qui est de ses engagements, tant sur l'immigration que sur les signes religieux. On sait qu'il y a eu un échange avec Justin Trudeau. Et c'est quand même bizarre, l'histoire de l'élection à Gaspé, la fameuse boîte de scrutin où tous les électeurs avaient voté pour le Parti libéral. Puis là, le DGE, évidemment, a demandé une enquête parce que c'est quoi les options? Les options, c'est que c'est un tour de passe-passe. Mais entre vous et moi, c'est pas intelligent de penser que ça va pas attirer l'attention, que tout le monde, on n'est pas dans Darcy McGee, là, que tout le monde dans le bureau du scrutin vote pour le candidat libéral. T'sais, puis une fois qu'on a dépouillé, on s'est aperçu qu'il y avait des votes, évidemment, pour d'autres candidats, ce qui a fait fondre la majorité du candidat libéral. Alors, c'est quelqu'un qui s'est trompé. C'est quelqu'un qui a écrit le chiffre 194 parce qu'il avait calculé 194 bulletins au lieu d'indiquer chacun, en fait, le résultat pour chacun des candidats. Alors, c'est une erreur. Certains et beaucoup ont l'air de penser que oui, puis d'autres pensent que c'est une tentative de faire un tour de passe-passe. Mais c'est quand même assez, assez étonnant, évidemment, qu'on se retrouve avec cette histoire-là. C'est le bureau de scrutin 61. Et un mot, on parlait tantôt de médicaments. Aux États-Unis, vous savez, on parle souvent de la crise des opioïdes. Il y a 5 médecins qui viennent d'être accusés dans la région de New York d'avoir vendu des opioïdes, prescrits, en fait, des opioïdes à des patients qui n'en avaient pas besoin. Et je vous donne juste un des cas d'un médecin, là. Il y en a tellement prescrits qu'il travaillait pratiquement 18 heures par jour. C'était la filée à son bureau. C'était un bureau dans un espèce de quartier. Les gens pouvaient attendre des heures pour obtenir leur prescription. Et juste pour vous donner le cas de ce médecin, là, le docteur Anderson, on dit qu'il a facturé pour à peu près 5 millions de dollars de prescriptions. Strictement des opioïdes. Un autre médecin, lui, a prescrit 3,3 millions de comprimés sur une période de 3 ans. Ces médecins-là, en gros, évidemment, faisaient une passe, là, complice avec l'industrie, et recevaient une espèce de ristourne en plus. Ils ne pensaient pas se faire prendre, mais là, au total, 5 qui ont été interceptés et qui vont maintenant faire face à la justice. Et on reviendra, pardon, tantôt sur le décès de Joanne Fontaine, qu'on a appris hier, comme beaucoup de gens ont témoigné, et qui disait assez clairement, même si malheureusement c'était prévisible, c'était annoncé, elle le savait, elle le disait, et j'écoutais un extrait de l'entrevue qu'elle a accordé à l'époque, il n'y a pas si longtemps même, à Isabelle Maréchal, où elle disait, dans le fond, comme toute personne souvent qui souffre de cancer, c'est la douleur qui fait peur, c'est l'espèce de crainte de souffrir plus que la crainte de mourir. Et donc, on l'a vu et elle a eu cet hommage aux Gémeaux lors de la dernière fin de semaine du gala. Alors, une comédienne exemplaire, une animatrice également, puis Isabelle va nous en parler aussi un peu plus tard dans l'émission. 6h22 minutes. Les nouvelles du Pont-Mercier.